Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, souplesse ou entêtement.
Bonjour à chacune et à chacun. Alors, on va ouvrir notre Bible. Hein ? C'est une bonne habitude. Et je vous propose deux brèves lectures. La première, nous allons la faire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, s'il vous plaît, et au verset 28. Elle sera très courte. Voilà. Alors, Matthieu, je le rappelle, 21, verset 28. « Que vous en semble ? Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, « Le premier. » Alors ça, c'est notre première lecture. La seconde, nous allons la faire dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, et un seul verset, Hébreux, chapitre 10, verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je relis cela. Voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors on comprend naturellement dans cette deuxième lecture le sens et la démarche qui est une démarche d'enthousiasme, une démarche heureuse, joyeuse et volontaire. Je viens pour faire ta volonté. Qui naturellement, eh bien, dénote le tempérament ou le caractère, un caractère prêt à se plier et accepter ce qui nous est demandé. Cependant, nous allons aborder un sujet un petit peu particulier, mais je crois que ça fait partie de l'enseignement et de notre éducation chrétienne. Cependant, cet élan de bonne disposition, et je le formule par une question, ne se heurte-t-il pas souvent à notre tempérament qui manifeste le contraire de nos paroles ? L'un dit oui et il n'y va pas, l'autre dit non et il y va. Vous avez compris quelque chose ? Oui, on a tout compris. Hein ? Et dans ce que nous rapporte l'évangéliste Matthieu, Jésus dira, avant la parabole, et il dira une autre parole en conclusion, il dira, mais que vous en semble ? Alors, moi je vais vous poser la même question. Que vous en semble de cette histoire, de cette parabole ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement ? Que vous en semble, dit Jésus. Et il posera naturellement, eh bien, la finale, il dira, mais lequel des deux ? Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Alors les détracteurs de Jésus à ce moment-là, puisqu'il parlait à tous ceux qui étaient à l'inquiéter, et c'est pour cela qu'il a donné la parabole, dans un contexte quand même un petit peu particulier de réticence, en effet des pharisiens, de ces gens qui étaient autour de lui. Alors lequel des deux a fait la volonté du Père ? Alors c'est un sujet qui mérite réflexion, et nous allons nous y pencher, nous allons réfléchir. Je voudrais vous parler ce matin de la souplesse et de l'entêtement. Oh là, peut-être qu'il y a des risques. Vous savez, je voudrais vous dire tout de suite que la souplesse, eh bien, ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas être veule, de dire, eh bien oui, bon, c'est comme ça. Ce n'est pas être sans caractère ou sans tempérament. Et l'entêtement, ce n'est pas forcément avoir raison. Voilà. Et on va voir cela un petit peu sous différentes formes. Moi, je dirais que l'un est une qualité et l'autre un défaut. Et on va le voir illustré par eh bien, des exemples. J'aimerais d'abord, pour que nous comprenions bien notre propos ce matin, passer aux définitions. Qu'est-ce que la souplesse ? Qu'est-ce qu'être souple, en d'autres termes ? Alors, je vais donner des synonymes, mais ça va nous approcher quand même, parce que ça nous renvoie quand même à notre propre vie, ça nous renvoie à notre propre comportement, ça nous renvoie à notre attitude vis-à-vis du Seigneur. Nous sommes ses fils et ses filles. Mais ça nous renvoie aussi dans nos relations que nous pouvons avoir chacun entre nous, frères et sœurs, chrétiens, et puis certainement bien au-delà dans notre vie tout simplement courante. Alors, les synonymes de souplesse. Il y a derrière cela une idée de mobilité et de mouvement. Je prolongerai, je dirais que la souplesse, c'est de la flexibilité. Voilà. L'accommodation, peut-être dans un sens péjoratif, mais avoir une attitude qui permet, en ce qui nous concerne en tant que chrétien à Dieu, eh bien, de faire ce qu'il entend faire aussi avec nous. Être maniable, par exemple. Souplesse vient du latin souplex. Et ça veut dire, écoutez bien, parce que c'est intéressant quand même. Hein. Vous savez, on n'utilise pas une langue, notre langue est riche aussi. Ça veut dire tout simplement qui se plie pour implorer. Ça, c'est bien. Qui se plie pour implorer. Donc il y a quand même un rapport de dépendance. Cela peut être aussi perçu comme facilité, habilité à se plier aux circonstances. Ce n'est pas forcément à la volonté de quelqu'un, mais c'est aussi aux événements. Et on peut être souple dans les tempêtes. On peut être souple dans toutes sortes d'événements de la vie qui sont durs, précisément. Alors, on sait très bien qu'en matière de natation, lorsque nous luttons contre, en effet, les courants contre des vagues et des contre-vagues, on a tout intérêt à se laisser porter. Hein. Parce qu'à partir du moment où on se crispe, on va aller par le fond. Dans bien des domaines comme ça. Quand vous allez chez le dentiste, c'est un supplice. Enfin, quoi qu'ils ont fait des progrès. Hein. Mais, ou dans certaines interventions, on vous dit toujours, le médecin vous dit « détendez-vous ». Eh oui, parce qu'on sait que si on crispe nos muscles, ça va faire encore davantage mal. Et qu'est-ce que l'entêtement maintenant ? Vous avez une petite idée un petit peu de ce qu'est l'entêtement ? Vous ne connaissez peut-être pas. Alors, ça a naturellement un sens de dureté, ouais. De rigidité, de cassant, de fixe. C'est le contraire de la souplesse. On avait parlé de la flexibilité en ce qui concerne le premier exemple. C'est quelque chose de fixe, de résistant et voire d'opposition, d'opposé. Alors, il y a d'autres mots, hein. Obstiné. Dans la Bible, il est question d'un mot roide. On ne l'emploie pas trop dans notre langage, mais on dira raide. Voilà, hein, raide. Alors, on parlera de têtu, on parlera de buté, on parlera de borné. Et dans la définition, écoutez bien, c'est s'obstiner d'une manière aveugle et maladroite. Oui, c'est ce que j'ai trouvé dans la définition. Et il y a une nuance à faire tout de suite. Ne pas confondre entêtement et conviction. On peut avoir des convictions sans être forcément entêté. Ça, c'est important de le dire. Et puis, souplesse avec compromission, en disant, bah oui, mais... Ah oui, il est tellement souple que finalement, eh bien, c'est de l'élastique et du caoutchouc. Hein. Et il se prête à toutes sortes de compromissions. Je ne parle pas de compromis, compromis c'est autre chose. Compromission, c'est pas ça. C'est intéressant d'étudier les mots parce que ça nous donne quand même de pouvoir rapprocher ensuite ce qui va suivre. Et vous allez voir dans la vie de personnage, hein, je ne veux pas faire de la doctrine ou de la théologie pure ce matin. On va prendre des exemples d'hommes. Ça parle beaucoup plus parce que nous sommes aussi des hommes. Et quelquefois, on peut se reconnaître, ça peut nous gêner, ça peut nous embarrasser, mais c'est pas fait pour cela, c'est fait pour que, vraiment, Dieu fasse quelque chose avec nous, avec chacun d'entre nous. Ça, c'est son but. Je dirais que la souplesse est une intelligence et une sagesse. L'intelligence de la souplesse apporte toujours le rapprochement et de bons sentiments. C'est vrai. Quand on voit que les gens sont avenants, quand il y a une saine et sainte affabilité, il nous est dit d'avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, dans Philippiens. Alors, je crois que ça facilite le rapprochement, ça facilite les contacts, ça facilite, peut-être en dehors de notre contexte de chrétien dont nous parlons, mais la souplesse, ça facilite aussi les affaires, la compréhension, et puis d'aller plus loin naturellement. Donc les bons sentiments. Tandis que l'entêtement génère, très souvent nous l'avons constaté, l'éloignement et le rejet. À un moment donné, il y a une cassure, il y a quelque chose, on dit on ne peut pas aller plus loin, il n'y a rien à faire. Alors, quelquefois, on dit, qu'est-ce qu'il est têtu ? Qu'est-ce qu'il est borné ? Il est obtus, il n'y a rien à faire. Hein. Alors, c'est vrai que tout ça, ce sont des phénomènes, hein, phénomènes de la nature humaine, on pourrait dire. Hein. Alors, on va passer, si vous voulez bien, et on va aller vers les choses simples à comprendre. Nous allons passer en revue une série de personnages bibliques dont l'histoire connue, elle est très connue parce que les noms que je vais vous citer, c'est quand même des gens qu'on connaît bien, eh bien révèlent soit la qualité ou le défaut de leur et de leur caractère et de dire après chacun en utilisant ce que Jésus nous a dit, lequel a fait la volonté de Dieu. Parce que c'est important, ça. En partant de notre exemple des deux fils, où le père dit, voilà, la mission, c'est d'aller dans la vigne. L'un va aller dans un sens, l'autre va aller dans un sens. Mais par rapport à ce qu'ils ont dit au départ, c'est pas du tout la même chose. Nous allons commencer par le premier têtu de l'histoire. Alors, vous avez peut-être cherché un petit peu. On va commencer au livre de la Genèse, parce que c'est comme ça que ça commence. Moi, je l'ai trouvé, et il s'appelle Cain. Voilà. Oh, on va voir un petit peu. C'est un entêtement qui est né de la contrariété. Contrariété et de la jalousie. Ah, ça fait pas bon ménage. Hein. Ouais. Il a été contrarié, il a été vexé. Il n'a pas été autant contrarié par rapport à Abel, son frère, mais il a été contrarié contre Dieu. Ouais. Alors vous connaissez, hein, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, hein, mais on voit que son entêtement a été caractérisé par une chose, et cela nous est rapporté finalement. Hein. Simplement, si vous voulez prendre des notes, mais moi je vous le cite comme ça de mémoire, hein, puisqu'on va en passer plusieurs ce matin. Dans Genèse 4 et au verset 5, il nous est dit que quand il s'est aperçu qu'il y avait une différence entre lui et son frère, et c'était une histoire cultuelle, une histoire d'offrande, une histoire de culte, hein, alors il nous est dit qu'Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je ne sais pas si tous les entêtés sont un visage fermé ou abattu, mais l'Éternel dit à Caïn. Et c'est formidable parce que Dieu est venir en aide. Dieu lui dit tout simplement, mais pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Moi, je crois que tous les entêtés sont repris à un moment ou à un autre par le Seigneur. Mais oui, Dieu nous fait grâce. Il sait comment on est. Quelquefois, c'est plus fort que nous d'être entêtés. Hein? Comme ça fait partie des choses qui font partie de notre personnalité, mais Dieu nous parle, et il parle à Caïn à ce moment-là. Il le prévient, Et il lui dit, mais tu sais, il y a quand même un danger auprès de toi. Si tu te entêtes dans cette voie-là, si tu demeures dans cet abattement et à faire un mauvais visage qui caractérise finalement ce qu'il y a à l'intérieur de toi, écoutez bien la suite. Car adressa la parole à son frère à un moment donné, mais comme ils étaient seuls dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et il le tua. Eh oui, parce qu'il n'y avait qu'une chose, c'était son entêtement. Et il se dit, c'est pas possible que le problème se règle trop bien. Il faut aller dans le sens qui était le sens le plus tragique, c'est-à-dire le meurtre, l'entêtement. Et là, on voit quand même un paroxysme de l'entêtement. C'est terrible. Dieu le prévient, nous l'avons dit et nous l'avons lu, mais il passe à l'acte. Attention, il y a des barrières, il y a des frontières qu'il ne faut pas dépasser dans l'entêtement. Il y en a un deuxième qui est le contraire, parce que je vais essayer de les varier, comme ça, ça ne va pas être trop fatigant. On va essayer de les varier. Le deuxième, c'est Abraham. Ah oui, Abraham. Il était quand même déjà suffisamment souple pour dire, quand Dieu lui a dit, tu quittes ton pays, ta patrie et tout ça. Parce que, vous savez, je dirais la souplesse, ça va quand même et ça marche très bien avec la foi. C'est beau, hein ? Eh oui, ça marche avec la confiance, avec la foi. L'entêtement marchera plutôt avec ce que moi je suis capable de faire. Ce que je crois devoir faire, ce que je pense devoir faire. C'est tout simplement une manifestation de l'ego, de la personnalité, et parfois d'une personnalité non régénérée. Alors il s'appelle Abraham, et je le présenterai sous la forme suivante. Abraham ou comment solutionner un problème de famille. Oh, c'est curieux. Parce qu'il va montrer une grande qualité, c'est le désintéressement du cœur. Alors, Genèse, voilà, on va paisiblement tourner les pages de notre Bible, on va à Genèse chapitre 13, parce que c'est intéressant de le voir. On peut lire la parole de Dieu sous différents aspects. Là, je le mets dans un cadre, c'est thématique. Et on peut ressortir des choses. Donc, chapitre 13, Verset 7-8, quelque chose comme ça, il nous est dit qu'il y a eu une querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. C'est devenu une querelle de famille. Et il nous est dit à un moment donné, c'est Abraham qui prend la parole, il dit « Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ?» Alors, on va faire une chose. « Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. » Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voilà. C'est pas souple, ça? Et pourtant, il était l'ancien. C'est lui qui aurait pu avoir le privilège, le droit de dire, eh bien, tu vas prendre ceci, tu vas prendre ça. Et il laisse le choix. Et ça, je trouve que c'est une belle histoire. La souplesse, elle s'allie avec la foi, nous l'avons vu. Elle s'allie avec le désintéressement. Les gens intéressés, peut-être, ont une autre attitude. Et je dis que c'est une véritable intelligence qu'Abraham nous laisse, une véritable intelligence, tout simplement pour prévenir les disputes. Vous savez, les disputes, elles viennent avec quoi ? Elles viennent avec l'entêtement, parce que personne ne veut céder. Ça peut durer longtemps. Quelquefois, on voit à la télévision, dans certaines émissions, vous savez, les débats juridiques, où un voisin... Et avec son voisin d'à côté, ça dure 20 ans, 30 ans, tu ne passeras pas sur mon chemin. Hein ? Alors là, vous savez, alors à ce moment-là, d'ailleurs, c'est vrai que ça prête à rire parce qu'on se dit, mais quand même, la vie, elle est courte. Hein. Bon, alors, la souplesse, c'est une question d'intelligence. Mais comme personne ne veut céder, alors ça finit devant le tribunal et puis avec toutes sortes de choses et quand ils ont des échanges, c'est des petits noms d'oiseaux. Hein. Alors, c'est pas la vie, ça. C'est pas la vie. Il y a Joseph. Joseph, ou la morale de ce proverbe, qui n'est pas un proverbe biblique, mais qui dit ce que ça veut dire. Ce proverbe nous dit ceci. Il est bon d'être ferme par tempérament et flexible par réflexion. Et s'il y en a un qui avait quand même du tempérament, c'était Joseph, parce que pour résister à tout ce qu'il a résisté, il fallait qu'il ait du tempérament. Et ce n'est pas dans les situations les plus faciles de sa vie. Mais Dieu l'a envoyé un petit peu en prison. Oh, un petit peu, 17 ans, c'est pas une affaire. Hein. Et là, il a pu réfléchir. Écoutez bien, il est bon d'être ferme par tempérament parce qu'il n'a jamais capitulé, il n'a jamais cédé. On peut dire que pour Dieu et pour sa foi, il a été entêté. Mais il était flexible par réflexion. Et on peut ajouter, quand on connaît bien la vie de Joseph, l'Égypte, à quelle tribulation n'a-t-il pas eu à faire face et à quel exercice de souplesse, de foi et d'humilité pour permettre à Dieu de le hisser au temps voulu, au sommet de l'Empire d'Égypte. Entre ce qu'il était au départ et ce qu'il est devenu ensuite, ah, ça a été quelque chose hein, pour Joseph. Bon, on ne rentre pas dans les détails, mais on comprend qu'il y a quelque chose entre les mains de Dieu. Et là, c'était pour l'œuvre de Dieu, de partir de rien et de finir le second après Pharaon. Parce qu'il y avait un plan de Dieu qui allait se découvrir dans le temps, dans les années, dans les siècles même. Et il fallait un Joseph. Et Joseph a été fait pour Dieu. Ouais. Et Joseph a mis dans son cœur cette souplesse. Et il a appris la souplesse, figurez-vous, dans l'épreuve et l'affliction la plus terrible, surtout pour un jeune homme. Ouais. Pour nous montrer que la flexibilité d'un homme le grandit et l'élève, mais celui qui résiste, tout en croyant quelquefois être dans le plan de Dieu, ne trouvera jamais d'envergure. L'envergure spirituelle, c'est Dieu qui la donne, mais il la donne lorsque l'homme se prête, lorsque l'homme s'y prête, et qu'il dit, moi, mes idées, c'est mes idées. Tout simplement, il n'en sera pas autrement. Comment voulez-vous que Dieu nous utilise? Comment voulez-vous que Dieu fasse des choses si nous savons mieux que lui ce qu'il faut faire? Tout simplement. Alors, simplement, hein, moi j'aime bien ces textes, et j'aime bien revenir sur des exemples comme ça, parce que, de toute façon, ils sont très beaux. Et puis, ils nous parlent si bien, ils nous parlent de nous. Hein. Moi, je ne sais pas comment... Moi, ils me parlent à moi, en tous les cas. Et dans Genèse, chapitre 41, simplement pour parler de Joseph, écoutez ce qui lui est arrivé. Hein, 41-38, il nous est dit qu'après être sorti de prison, après avoir passé près de 20 ans dans l'humiliation et avoir été retourné dans tous les sens pour être souple, flexible, il nous est dit que Pharaon dit à ses serviteurs, quand il a trouvé Joseph, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant l'Esprit de Dieu en lui ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. » Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Mes frères et sœurs, si Dieu nous appelle à quelque mission, quelque réalisation, mettons-nous entre ses mains et ne discutons pas avec lui. Seigneur, pourquoi tu me conduis à droite? Pourquoi tu me conduis à gauche? Pourquoi tu me fais passer par là? Pourquoi ceci et cela? Et vous savez, le pourquoi, c'est déjà les prémices de l'entêtement. Parce qu'on veut comprendre, et Dieu ne nous demande pas de comprendre, il nous demande de croire seulement en lui. Souple, souple. Il y a Moïse. Alors Moïse, c'est aussi un personnage. Moïse, ou comment d'inflexible, de caractère trempé, un caractère ferme, fort. Comment d'inflexible un homme peut devenir un agent docile entre les mains de Dieu? Alors, en ce qui concerne Moïse, il a appris les choses sur une période que nous n'aurons peut-être pas l'occasion de connaître, mais il a appris les choses sur 120 ans. Ça nous donne du temps de voir, hein, 120 ans. Parce qu'à la fin, dans le livre des Nombres, au chapitre 12, il est dit ceci. Quand Moïse était très, très, très âgé, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre, sur la face de la terre. Mais là, ce texte, il a été écrit pratiquement juste avant sa mort. Mais quand on connaît le Moïse, jeune prince d'Égypte, quand on le connaît là, juste avant sa quarantaine d'années qui... Et dans toute la puissance de la sagesse des Égyptiens, à deux doigts d'être élevé sur le trône de Pharaon, et ensuite devoir faire un petit séjour, pas très long, 40 ans dans le désert. Ensuite, à la sortie d'Égypte, avec tout le peuple, excusez-moi l'expression, mais être bien cuisiné par les révoltes et les murmures du peuple qui lui en font voir de toutes les manières, à la fin, eh bien notre Moïse, il est souple. Ah oui, il s'est assoupli. Eh, vous savez, ce qui est formidable, moi, ce que je vois, ce que je remarque, hein, parce que bon, on commence à avoir un petit peu l'âge, mais ce que je remarque, c'est qu'on a connu des personnalités, même dans le ministère, ou même peut-être dans la famille, qui étaient des gens trempés, je peux vous dire, à 20 ans, à 30 ans, ouïe, 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 papa, hein. Et puis, on les revoit aujourd'hui, ils ont gagné en douceur, ils ont gagné en patience. Eh, mes sœurs, vous pouvez dire ça de votre mari ? Enfin, faut pas me le dire à moi. Mais c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, le bon vin, il se bonifie. Hein. C'est le cas de Jacob. Ouais, Jacob, c'est un tempérament, lui aussi. Hein. Mais c'est ça. Et je crois que dans la vie spirituelle, il y a des choses où nous avions, même moi, hein, on ne m'avait pas connu à 30 ans. Oh là là. Et il y a des choses où je ne laissais rien passer. C'était comme ça, ça ne se voit pas comme ça, parce qu'il dit, bon, il a vieilli, Alain, il est... Mais attendez, hein. Eh oui, et au bout d'un certain temps, il y a des choses que l'on comprend sous un autre sens. C'est pas qu'on a, on s'est décati, c'est pas qu'on a abaissé les bras, c'est pas parce que ceci et cela, c'est parce qu'il y a une œuvre de Dieu. Moi, je le crois, hein. Je le vois plus chez les autres que chez moi. Mais je le dis, mais Seigneur, mais dans telle situation, j'aurais réagi comme ça, et puis personne ne m'aurait arrêté. Et aujourd'hui, ben, je me dis, ben non, faut voir ça les choses d'une autre manière. Écoutez, il nous est dit que Moïse, à la fin de ses jours, était l'homme le plus patient et le plus doux, le plus débonnaire, parce que c'est le mot que nous trouvons dans le sermon sur la montagne, le plus débonnaire de tous les hommes de la terre. Merci Seigneur de ce que, vraiment, tu nous as assouplis. Hein. Ouais, Dieu assouplit. La souplesse a pour allié la patience et un esprit doux. Mets en nous, Seigneur, un esprit doux. Doux et paisible, je suis doux et humble de cœur. Est-ce que ce n'est pas ça ce que Jésus nous dit ? Et Jésus était jeune, il avait 30 ans quand il a dit ça. Hein. Il était en avance sur tout le monde. Hein. Mais non, il n'était pas en avance. Il était. Excusez-moi. Il était. Alors, si je vous parle de Samson maintenant, la souplesse de Samson, tellement souple, qui casse. Samson est le type même de l'entêtement. Et il est entêté, il est borné parce qu'il a été piégé. Enfin, il s'est laissé petit à petit piéger par la passion qui l'a poussé à franchir barrière après barrière sans pouvoir, quand il s'en aperçoit, faire marche arrière. Là, il se retourne, il se dit, zut, je suis coincé. Et coincé, c'est d'être raide. Et là, il ne pouvait rien faire, hein, tout simplement. Parce qu'il a été immodéré dans ses goûts et ses appétits charnels. Son obstination a eu raison de lui. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a un ingrédient qui l'a fossilisé, qui l'a calcifié, qui l'a rendu finalement eh bien, là, dans l'état où il était, hein, obstiné, entêté, c'est qu'il a joué avec le mensonge. Il a joué simplement avec le mensonge. Et une position bornée nous fait perdre l'élémentaire de la sagesse. Il ne savait plus où était le droit, le bien, le mal. Et on va le retrouver, notre brave Samson, je pèse mes mots, se faire endormir dans l'inconscience du mal. Écoutez bien la manière dont il va se faire endormir. Alors, c'est pas à suivre. Jude 16, verset 19. Delila. C'est ça comme c'est qu'elle s'appelle ? Moi, je confonds toujours avec l'autre. C'est pas facile. Hein. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme philistin, elle rasa les tresses de sa tête ou les tresses de la tête de Samson et commença aussi à le dompter. et il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. » Et je me dégagerai. Et voilà la phrase. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Et ils le firent descendre à Gaza. Et le lièrent avec des chaînes d'airain. Et ils tournaient la meule dans la prison. Il était entêté, borné, avant. Et il était après. Dans les chaînes. Oui. Il était dans la rigidité de la sentence et de la condamnation. C'est dommage, hein ? Alors, il y en a un qui arrive. C'est, je crois, le plus fameux des entêtés. On en a parlé, ils étaient pas mal, hein, ceux d'avant. Hein. Mais il y en a un. Vous pensez à qui ? Il était roi en Israël. Premier roi d'Israël. Il s'appelle le roi Saül. C'est le roi têtu. Et s'il y avait un titre monarchique à lui donner, on l'aurait appelé Saül, le têtu premier. Ah ben oui, il était premier en tout. Il était premier en tout, c'est ça son problème. Enfin, il voulait être premier en tout. Présenté comme ça. Chez lui, la cause de son entêtement, c'est l'orgueil d'être et de paraître. Quand vous avez déjà la première place, ça va. Hein, c'est pas peine d'en chercher plus. Mais lui, il avait la première fois, la première place, et il en voulait encore davantage. Et quiconque lui faisait un peu d'ombre, à droite ou à gauche, il le supportait très mal. 40 ans, il fera souffrir son peuple. Et souvent, il y a des chrétiens qui m'ont demandé, encore aujourd'hui, qui me disent, mais comment Dieu permet-il de maintenir au pouvoir un homme qui, pendant 40 ans, fait souffrir les autres? Ça, souvent, on m'a posé la question. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui a une autorité et qui tient les rênes, qui dirige un pays ou autre chose, comment se fait-il qu'il se maintient et puis que Dieu permet qu'il se maintienne? Eh bien oui, c'est comme ça. Et ça, ce n'est pas des réponses que l'on peut donner aisément. En tous les cas, pendant toutes ces années, il a fait souffrir son peuple et il a fait souffrir quelqu'un que nous allons connaître et dont nous allons parler tout à l'heure, c'est David. Vous savez que David, il était un peu comme Joseph. Il a couru dans les déserts, il a été fugitif pendant près de 15 à 17 ans pour fuir le roi Saül. Parce que Saül était un despote, oui on peut dire ça, hein, ça ne l'avait pas arrangé, hein. Un despote borné avec un esprit persécuteur, inquisiteur, soupçonneux. Et aujourd'hui, si on lui passait un test médical, on dirait que c'est un psychopathe. Ah oui, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa tête. C'est comme ça. Oh, je pense que Dieu ne l'avait pas choisi, parce que dans sa tête, il lui avait mis l'esprit, le Saint-Esprit. Il nous a dit que Saül était... Mais le problème, c'est que quand il y a une tendance à l'intérieur de nous-mêmes, et qu'elle est cultivée, et qu'elle est arrosée, et puis que l'orgueil prend le dessus, parce que c'est ça ce qui est terrible. Alors à ce moment-là, ça va prendre des proportions, et puis on échappe entre les mains de Dieu. Puis quand Dieu nous dit quelque chose, on est raide comme un bâton. Quand Dieu veut nous conduire, on dit « mais moi je fais comme je pense, parce que tu sais Seigneur, je connais mieux les choses que toi ». Alors à ce moment-là, on s'enfonce de plus en plus, et on devient de plus en plus raide. Et avec toutes les conséquences que ça peut avoir, la méchanceté, la jalousie, l'envie, toutes sortes de choses de soupçons. Et à Saül, on peut lui appliquer ce proverbe. J'ai trouvé des proverbes, hein, avec c'est un petit peu émaillé. Mon... L'entêtement et le dégoût se suivent de près. Et c'est vrai qu'au départ, il a été acclamé par le peuple quand il était jeune homme, quand il était jeune roi, le premier roi d'Israël. Tout le monde lui faisait la gloire. Il était très beau, il était très grand, et tout le monde l'avait accueilli, vraiment. C'était magnifique et formidable. Mais avec les années, avec le temps... Ça a été un véritable dégoût. Ouais. L'entêtement. Parce qu'il y a eu des prophètes qui sont passés pour lui dire « Non, non, Saül, tu vas trop loin. Saül, attends !» Parce qu'il était tellement impatient. Vous savez l'histoire de... Au départ avec Amalek, etc. Ouais. Alors, il s'endurcit dans une désobéissance qui lui sera fatale jusqu'à gâcher l'appel de Dieu. Ouais. Parce qu'il avait été appelé. Il avait été oint. il avait été mis à part. Et il a gâché l'appel de Dieu, et il va finir désespéré sur la lame de sa propre épée, de son propre glaive, entêté, borné. L'avertissement est le suivant. C'est tout simplement dans le livre des Proverbes, vous le connaissez, et il est quand même important peut-être à rappeler, au chapitre 29 et verset 1, écoutez bien, « Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. » Alors, en ce qui concerne subitement pour Saül, ça durait. Mais sans remède, ça a été terrible. L'histoire de la bataille de Gilboa. Parce que non seulement il est mort, mais il a emmené à la mort ses trois fils et son armée a été défaite. C'était une catastrophe nationale. Et tout ça par l'entêtement d'un seul homme. Tout simplement. Le visage de David est plus souriant. Bien qu'il ait eu ses entêtements. On le connaît, hein. Ah, David, c'est autre chose. Et on laisse parler le livre des Actes des Apôtres, parce que vous savez qu'il nous est parlé de David dans le livre des Actes des Apôtres. Vous allez me dire, mais ça, c'est le Nouveau Testament. Écoutez, il nous est simplement dit au chapitre 13, cette parole qui nous parle de David, c'est Dieu qui dit ceci. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, et ça c'est beau, hein, qui accomplira toutes mes volontés. » Homme selon mon cœur, dit Dieu, et il accomplira toutes mes volontés. Savoir se courber, qu'illustre cette maxime, encore une autre. Mieux vaut ployer que rompre. Ouais. Ça, on doit l'apprendre à la jeunesse. On doit l'apprendre à nos enfants, à nos petits-enfants dans l'éducation. Oui, parce que s'ils ne veulent pas parfois plier dans certaines choses, c'est la vie qui va les rompre. Et c'est bien ce qu'on veut leur éviter. C'est bien ce qu'on veut leur éviter. Mais pour David, c'est ça, en quelque sorte. Vaut mieux ployer que rompre. Et on va découvrir quelque chose d'assez étonnant. C'est un homme dont il nous est dit qu'il était l'ami de Dieu et il avait le cœur de Dieu. Et pourtant, il a fait des erreurs. Et c'est particulièrement peut-être dans ces moments critiques de sa vie, d'erreur, que nous allons voir s'illustrer eh bien, les vérités que nous sommes en train de partager maintenant. Permettez-moi de dire, et c'est vrai pour David, mais ça doit être vrai aussi pour nous, la droiture de cœur conduit toujours à la repentance, à la délivrance et au pardon du pécheur. Quand on lit, par exemple, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, et au verset 7, par exemple, peu importe. Le prophète Nathan est interpellé par Dieu pour aller dire « Tu vas aller voir David et tu vas lui dire ce qu'il a fait. » C'était l'histoire de Bathsheba, l'histoire de son mensonge et l'histoire d'avoir tué le mari de Bathsheba pour se débarrasser du mari, pour avoir la femme. Voilà. Alors, Nathan a dit à David « Tu es cet homme-là. » Parce que David disait « Moi, je suis têtu, je ne le dirai pas. » Mais bon, Seigneur, c'est tout. Hein. Et au bout d'un certain temps, eh bien Dieu va dire, tu vas aller le voir et tu vas lui dire, tu es cet homme-là, c'est toi qui as fait ça. Et un peu plus loin, David répondra ceci. David dit à Nathan le prophète, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Bon, il y a eu des conséquences, mais tu ne mourras point. Devant le mal commis, devant les fautes commises, devant l'obstination de David de ne rien dire, et qui a duré des mois et des mois, c'est le psaume 32, quand il dira « Mais tant que je me suis tu, mes os se consumaient, ma vie était comme la sécheresse de l'été, je ne pouvais plus vivre, je ne pouvais plus rien manger, je ne pouvais plus, et tous mes jours et mes nuits étaient tourmentés. Ben, » il a résisté, hein, il est entêté, hein, jusqu'au jour où Nathan est venu le voir. Mais quand le prophète est venu de la part de Dieu, lui dit « Mais tu es cet homme-là », vous savez ce qu'il a fait, David ? Il a dit « Oui, je suis coupable, j'ai péché. » Souplesse, souplesse. Parce que ce qui est formidable dans l'histoire de David, comme dans bien d'autres histoires de repentance, le fils prodigue et tout ça, c'est que quelquefois, eh bien, nous sommes dans une condition d'entêtement et nous disons, si jamais je dis ou j'avoue, on va me broyer, on va me tuer, on va ceci et cela. Alors que c'est précisément le contraire qui va se passer. Dieu va pardonner à David. Le père de la parabole va lui dire, viens mon enfant, rentre dans la maison. Tu es mon fils. Eh oui, la souplesse, la flexibilité. Et de dire, eh bien voilà. Je trouve que ce sont des textes magnifiques. Oui, l'obstination rend fou, malheureux et nous détruit. Il y a le cas de Roboam. Alors, qui est Roboam? C'est un roi. C'est le dernier roi d'Israël uni. Il y a eu Saül, il y a eu David, il y a eu Salomon. Et après Salomon, c'est son fils Roboam, le dernier roi. Il y en a eu quatre hein, du grand Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le cas de Roboam, c'est un jeune roi qui va rejeter les conseils sages et avisés. Et je dis, quand un entêtement stupide, parce que là c'était vraiment stupide quand on lit le texte, eh bien ça nous fait perdre un royaume et ça divise une nation. Et c'est à partir de son entêtement qu'il y a eu le schisme en Israël. Il y a eu le royaume du sud avec Juda et le royaume du nord avec Samarie. Et ça durait pendant des siècles et des siècles, à cause d'un entêtement. Et vous connaissez un petit peu le contexte. C'est que quand il est arrivé au pouvoir, Roboam, il avait tout son peuple devant nous, il y avait devant lui, il avait tous les anciens qui avaient été là, eh bien, des ministres et les grands du roi Salomon. Et les anciens ont dit, tu sais, ton père a été dur avec nous, lève un peu le pied avec le peuple n'en peut plus, il a trop de charges, il a trop d'impôts, il a trop de toutes sortes de choses, le peuple est malheureux, alors lève le pied, tu es un jeune roi, montre ce qu'il faut faire et lève le pied. Alors après il a été voir les jeunes qui avaient été avec lui, et quand il a été voir les jeunes lui ont dit, il faut que tu sois plus dur que ton père, Ah, tu vas les traiter, hein. Il faut que tu prennes le pouvoir et tu vas les faire marcher avec des scorpions. C'est ce qui est dit dans le texte, hein. Avec des fouets et des scorpions. Et il nous est dit à un moment donné que Roboam choisit le conseil des jeunes de son âge plutôt que les anciens qui lui avaient donné des conseils généreux et des conseils de souplesse. Ouais. Lui, il voulait traiter son peuple encore plus durement que Salomon, son père, l'avait traité. Et il nous est dit avec, à un moment donné, je les traiterai avec le fouet avec des scorpions. Vous savez ce que ça veut dire, le fouet avec scorpion? C'est parce qu'il y a des morceaux d'os ou de fer au bout du fouet. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'était de la tyrannie. Hein. Et il a perdu. Tout ça à cause de son entêtement. Il s'est dit, nous, on est modernes. Ah, avec nos jeunes, on va faire bouger les choses. Eh oui, ben oui, mais attendez, c'est peut-être bien d'aller devant et de voir un petit peu ce qu'il y a devant. C'est formidable, c'est bien. Mais attendez, il ne faut pas en perdre le bon sens. Il ne faut pas en perdre la grâce. Il ne faut pas en perdre l'esprit. Parce qu'il y a quand même des richesses aussi auprès de ceux qui nous ont précédés. Hein. N'oublions pas qu'on n'a pas inventé, hein. on n'a pas fait le monde. Hein. Il y a quand même des trésors dont nous avons besoin pour vivre aujourd'hui et préparer demain. Alors ça, c'est Roboam. Tout simplement, ça a été une catastrophe. Ça a été quelque chose de terrible. Et encore un proverbe, vous allez me dire, mais il ne fait que lire que des proverbes. Moi, j'aime bien les proverbes de la Bible, mais j'aime bien aussi les autres. Hein. Il y a des choses qui sont très bien. Écoutez bien, pour Roboam, c'est vraiment l'illustration de ce qu'il a fait. Qui s'obstine à mordre un caillou ne réussit qu'à se briser les dents. Vous avez déjà essayé? Bravo chez le dentiste. Eh oui, mais c'est vrai. Quand vous avez quelque chose que vous tenez, que vous voulez mâcher, que vous voulez pas lâcher, et que vous savez que ça vous fait du mal, ben à un moment donné, ça va casser. Hein. Et c'est pas le caillou qui va casser, hein. C'est les dents. Hein. Alors, un qui est fameux aussi, c'est Jonas. Jonas, vous l'attendiez, je suppose. Jonas est un entêté. Cependant, sa résistance tenace servira à prouver que Dieu est souverain et qu'il a toujours le dernier mot sur les caprices des hommes. Et vous pouvez toujours y aller. Dire, Seigneur, c'est toi qui vas capituler, Seigneur. Oh, là, vous pouvez toujours y aller. Hein. Vous pouvez attendre longtemps. Hein. Vous pouvez y passer l'éternité. Hein. Ouais, c'est Dieu qui est toujours souverain, de toute façon. Et Dieu a dit, Jonas, tu veux aller à Tarsis? Va donc à Tarsis. Tu vas voir, tu vas refaire le voyage du retour en sous-marin. Ça, il s'y attendait pas. Hein. Quand il arrive à Ninive, non, c'est pas possible. Tous ces gens, ce sont des mécréants. Ils peuvent mourir. Moi, je demande le feu du ciel. Il fait chaud. Il va autour de la ville. Il s'assoit sous un figuier. Puis à un moment donné, il fait très très chaud, toujours de plus en plus chaud. Et oui. Et le figuier, il meurt. Et il se met en colère. Ah, tiens, tiens, Jonas. T'avais besoin de ce figuier. T'aurais peut-être pas besoin de moi un petit peu. Alors, ça va se faire comme ça. Et puis, il va aller quand même annoncer la bonne nouvelle à Ninive. Et les gens de Ninive comptent par-delà tout ce qu'ils pouvaient penser du contraire. Ils vont se convertir. Dieu est souverain. Et il demeure souverain. Jean-Baptiste, maintenant, très rapidement. Jean-Baptiste va confesser des paroles admirables qui prouvent que Dieu a un plan de salut pour celui qui est prêt à lui obéir avec docilité. Vous savez ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, cette parole, elle est belle. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Si nous laissons rentrer dans notre vie celui qui a dit « je suis doux et humble de cœur », alors à ce moment-là, on va avancer. Quelquefois, moi, ça me fait peur hein, de voir certains qui se cabrent et qui se disent « ben oui, mais bon, ils perdent du temps, c'est tout. » Parce qu'ils y arriveront, hein, mais ils perdent du temps. Et Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse en moi. Et moi, je vais diminuer. La souplesse, Seigneur, je te laisse agir par l'esprit. Ton esprit, le bienvenu dans ma vie. Je pleure parce que quelquefois, je m'aperçois de toute ma corruption, de tout mon péché, et je voudrais tellement être un autre homme. Seigneur, tu pénètres en moi de ton esprit. Tu prends toute la place dans mon cœur et dans ma vie. Il faut que tu croisses, Seigneur, et moi, je vais diminuer. Mais c'est bien. Tout croyant qui fait sienne ces paroles que je viens de citer est assuré des progrès dans sa vie spirituelle, car dit Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, je m'étais imaginé que sans toi, je pouvais mener ma vie spirituelle, ma foi, je pouvais faire ceci et cela, avec les idées, avec toutes sortes de moyens, avec tout ce que j'ai appris, mon expérience. Mais non, sans moi, vous ne pouvez rien faire, tout simplement. Souplesse. Souplesse oblige, abandon. Et on arrête avec la crispation. Vous savez, on est souvent à avoir peur de ceci, peur de cela. Mais on combat contre la peur et nos craintes. Mais est-ce que le Seigneur n'est pas avec nous pour nous aider à avancer? Est-ce que nous avons à craindre ceci et cela? Seigneur, aide-moi à dépasser mes crispations. Parce que dans mes crispations, c'est une raideur, c'est une rigidité, c'est quelque chose qui, quelque part, m'empêche de vivre. Que nous puissions aller de plus en plus loin dans cette liberté de la grâce et de l'Esprit de Dieu, sans crispation. Et puis voilà Nathanaël qui apparaît. Et je dirais que Nathanaël, c'est l'intelligence de pouvoir changer d'avis quand on se trompe. Quand on se trompe, parce que vous savez, les têtus et les entêtés, ils savent quelquefois à un moment donné qu'ils se trompent. Non, c'est comme ça, ça ne sera pas autrement. Alors là, c'est dur, hein? C'est dur. Eh bien oui, parce que lui, il nous donne cet exemple. Tout simplement, quand la vérité et les faits se présentent. Et vous savez pourquoi je vous en parle? Parce que, justement, eh bien, il nous est dit dans l'évangile de Jean, en ce qui concerne Nathanaël, ceci. Il y a Philippe qui rencontre Nathanaël et il lui dit « Nous avons trouvé celui qui est le Messie, celui dont Moïse a parlé, etc. » Vous connaissez le texte et j'en vais pas plus loin. Et Nathanaël dit « Pouh, qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth ?» C'est Nathanaël qui l'a dit ça. Il se dit « Mais faut pas raconter l'histoire, de Nazareth il sortira rien. » C'est pas possible. Et Philippe lui répond cette parole, viens et vois. Nathanaël, on peut dire, je n'irai pas, je verrai pas. Parce que c'est ça l'entêté. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit le lui, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude, donc le cœur droit. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Et après, il dit, mais tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. Changer d'avis, souplesse de pouvoir changer d'avis quand on se trompe. Viens et vois, mes frères et sœurs, avant de juger quelquefois, nous avons besoin de voir et d'apprécier les choses. Nous avons besoin d'entendre un autre son de cloche. Ne soyons pas trop spontanés dans nos condamnations ou nos appréciations abruptes. Viens et vois. Et je dirais, viens et vois et crois. Refus de l'évidence. Alors, je vais terminer bientôt. Les pharisiens et Jésus. Alors là, nous avons vraiment le nec plus ultra du Nouveau Testament. De l'entêtement. Les pharisiens et Jésus. C'est l'entêtement de l'inimitié. Ben, c'est un petit peu, ça nous renvoie un petit peu au sacrifice de Caïn avec son frère. Parce que aussi, les pharisiens, c'était des gens qui sacrifiaient, qui avaient un culte, qui avaient un respect de Dieu. Comprenez ? Mais qui voulaient faire à leur manière. Qui voulaient faire selon ce qu'ils pensaient. Alors, c'est l'entêtement de l'inimitié favorisé par le légalisme religieux dominateur et qui fait des hommes des immatures et des juges. C'est comme ça que Jésus les traite. L'amour, eh bien, construit la confiance et la foi. Son contraire de l'amour, c'est le rejet et la haine. Et qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la personne de Jésus, à son message, au message du royaume de Dieu ? Ça a été le rejet et la haine, jusqu'à le crucifier sur la croix. Les pharisiens étaient rigides et ils étaient cassants, moqueurs aussi, qui n'avaient pas compris, mais qui n'avaient pas voulu comprendre, parce qu'ils avaient aussi le choix, comme les autres, de comprendre. Ils n'avaient pas compris la grâce de Christ qui rend libre. Et quand on est libre, on n'est plus entravé, donc on est souple. Ouais. La dureté du cœur les rendait impitoyables. Alors pour eux, cette parole que Jésus leur donnera, et c'est dans le même texte que nous avons lu ce matin, il leur dira, les prostituées et les publicains vous devanceront dans le royaume de Dieu. Et là, c'était un couperet terrible. Ah ouais, c'était quelque chose. Eux qui pensaient être les premiers, ben ils vont être les derniers, tout simplement. J'avons fini, il y en a encore deux, j'avons fini par Thomas. Excusez-moi, je parle le français un petit peu. Voilà. Alors, l'entêtement de Thomas vient de sa cruelle déception. C'est un sincère, c'est un vrai Thomas. Il aime Jésus. Il a donné 3 ans de sa vie pour le suivre. Mais il est dans un état de déception épouvantable. Et il souffre de ne pas avoir cru que Jésus était ressuscité. Il l'a vu mort, mais il dit, c'est pas possible qu'il soit ressuscité. Ses doutes le submergent. Et il se bute. Alors, ne vous butez pas parce que vous avez des doutes, frères et sœurs, parce que vous allez encore avoir des doutes. Vous en aurez toute votre vie, des doutes. Alors, ne vous butez pas. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu vas le comprendre demain. Oui, oui. Et vous savez ce qu'il disait, Thomas ? Eh bien, je ne croirai pas. Non, je ne croirai pas. Si je ne mets pas les doigts, si je ne mets pas mes mains, si je ne vois pas ceci et cela, je ne croirai pas. Il était entêté. Quant à Pierre, avec l'histoire de Corneille, il y en aurait bien d'autres, on y passerait toute la nuit, là. Quant à Pierre, donc, avec l'histoire qui nous est rapportée dans le livre des Actes concernant Corneille, sa défiance à l'égard des païens font en même temps que ses préjugés de résistance. Dieu va lui donner une révélation. Et Pierre, c'est un juif, et un vrai juif, un pur juif. Et il se dit, nous, le salut, il est pour nous, il n'est pas pour les autres. Et quand il va arriver, là, à Jopé, ou je ne sais plus dans quel endroit, peu importe où se trouve Corneille, eh bien là, ça va fondre tout ça. Dieu va lui donner une révélation. Il va arriver, notre Pierre, à la souplesse parce que Dieu sait mieux que nous ce qu'il faut faire avec les uns et les autres. Et quand il va avoir cette vision, Dieu lui dira, mais dis donc, Pierre, tu vas quand même pas me donner de leçons sur la sainteté. Tu vas pas quand même me donner de leçons sur le salut pour qui est-il. Ce que moi je déclare pur, ne le déclare pas impur. Et la pierre, il va fondre. Et il va aller prêcher l'évangile. Et il va y avoir toute la maison qui va se convertir. Ça va être le premier, lui, le juif, le pur juif. Ça va être le premier à annoncer l'évangile aux païens. Et bravo, Merci, Seigneur. Enfin, celui qui fait la plus belle démonstration de flexibilité, c'est l'apôtre Paul, dont nous connaissons le tempérament et le caractère. Oh là là, c'est pas la moitié d'une personnalité, Paul. Et c'est lui qui va nous donner la plus belle déclaration. Et vous savez ce qu'il nous dit ? Je me suis fait tout à tous dans le but d'en sauver le plus grand nombre. Paul nous dit, je me suis fait tout à tous. Oh, dites donc, ça descend du ciel. C'est pas possible. parce qu'il nous fait la preuve, Paul, de l'intelligence et de la sagesse. Ce n'est pas l'intelligence de Paul, ce n'est pas la sagesse de Paul, c'est l'intelligence et la sagesse de l'Esprit. Moi, Seigneur, je ne sais rien, mais toi, tu sais tout. La sagesse de l'Esprit dans les formes du service. Je dis bien dans les formes du service. C'est pour ça que, mes frères et sœurs, quelquefois, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais faisons-nous confiance. Faisons confiance. Quelquefois, il y a des choses qui sont faites dans nos églises. On se dit, mais ça ne va pas dans le bon sens. C'est pas cela. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Ça, je vous l'accorde. Mais soyons pas trop. Parce que vous savez, quand le mouvement de Pentecôte a commencé, les missions de guérison, de salut et tout ça, on en a choqué plus d'un. Et c'était pourtant dans l'esprit. Autrement, on ne serait pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y aura de nouvelles voies, de nouveaux passages, de nouvelles frontières qui seront repoussées. Mais si elles sont faites dans l'esprit, mais je dis, mais merci Seigneur. Parce que le monde change. Et le salut reste toujours le même. Et Paul, dans cette affaire, il aurait pu dire, mais moi je ne prêche qu'aux Juifs. Non, il a dit, je me fais tout à tous pour en sauver le plus grand nombre. Alors ça, c'est important. Oui, je dis bien, et je finis avec ça, sagesse de l'esprit dans les formes du service, tout en conservant l'intégrité du fond. Vous avez compris ce que ça veut dire? Là, on va être inflexible. Là, on va faire de la résistance. On ne changera pas et on ne dira pas autre chose que Jésus est le sauveur de tous les hommes. Ça, on ne bougera pas. Mais après, dans l'expression, « Oh Seigneur !» Tu me conduis. Vous savez, on ne prêche pas l'évangile à Saint-Nazaire comme on prêche l'évangile dans les missions du Niger, du Mali, ou comme on le prêche au Cambodge. Pas du tout. Vous savez, on serait surpris si on allait faire un petit tour de la manière dont nos missionnaires et nos pasteurs traitent les choses. Mais c'est normal. C'est normal. Conclusion. Souplesse et entêtement. Alors, la parabole que nous avons vue tout à l'heure. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Alors, vous prenez tous les noms que je vous ai cités et vous pourrez donner la réponse. Dire oui et s'entêter à ne pas faire, ou dire non, et accomplir ce que Dieu nous demande. Et on l'a chanté, on le chante souvent, « Rends-nous souples, Seigneur. Rends-nous souples, Seigneur. » Et je dirais, je finirai comme cette inspiration du prophète Jérémie reçue de Dieu, « Rends-nous souples, Seigneur, comme l'argile est dans les mains du potier. Ainsi nous sommes dans ta main, Seigneur. » Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Et qu'il nous visite et qu'il nous fait du bien, on va prier quelques instants. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Oui, elle est simple, elle est incisive, elle est directe. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, tu veux véritablement, Père éternel, que nous soyons heureux. Et nous ne sommes pas heureux lorsque nous sommes dans une armure, lorsque nous sommes dans des chaînes, lorsque nous avons les fers aux pieds, lorsque notre cœur est là, et bien Père éternel, à l'étroit. Oui, Seigneur, la liberté, c'est celle de l'amour, c'est celle de la souplesse, c'est celle où nous pouvons te dire, comme cette belle parole de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse en moi et que moi je diminue. Alors merci, Seigneur. Tu nous as parlé ce matin, tu veux nous faire du bien, et nous les uns les autres, nous voulons vraiment y aspirer. Oui, Seigneur, rends-nous souples entre tes mains, comme l'argile entre les mains du potier. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen.